hand in hand, and some gathered together in bands. The bleeding hearts of the artists make their stand. And when they've given you their all, some stagger and fall. After all, it's not easy. Banging your heart against some mad bugger's wall.
Présente dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, Crépuscule, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP.
Thank you. struggling.
It's broken, I think.
Il fait nuit. La ville continue à être bombardée. Le ciel est rouge. Les immeubles explosent, prennent feu. Il y a des cris, des gens qui courent, qui pleurent, des blessés que l'on sort des décombres, que l'on essaye de soigner, des morts aussi. Des tumultes fin du monde. Où chacun se sent tout petit, sans défense. Un homme marche dans les rues. Il regarde tout ça, il est grand, mince, cheveux grisonnants, petite moustache, lunettes métalliques. Il a l'air là et en même temps digne, il est habillé d'un pantalon gris et d'un chapeau. Il marche les mains dans les poches, une main lui tape l'épaule, il se retourne. C'est une femme blonde, grande, mince, dans les 25 ans. Très élégante, avec un manteau rouge et un petit chapeau rouge et noir. Ferdinand, voilà une heure que je te cherche. Tu peux pas rester ici. La ville avait été prise. Tu es trop connu. On va te prendre. Il faut te cacher.
Le pays entier sera pris.
Elle baisse les yeux. Cache-toi dans une maison du quartier résidentiel. Après, nous verrons. Il y a encore le téléphone et l'électricité. Allons, viens. Ne reste pas là.
À quoi bon?
Si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour ceux qui t'aiment.
Qui m'aiment encore?
Je t'en prie, Ferdinand, viens. Il la suit. Elle le mène dans une rue encore intacte, où elle a garé sa voiture. Il demande.
Où vas-tu me mener?
Dans le quartier résidentiel, je t'ai dit, derrière la colline. Tu y seras bien. Il n'est pas encore bombardé. Il ouvre la portière. Entre. Je suis allé te chercher, toi. J'ai pris quelques affaires. Ta concierge m'a laissé entrer. Il entre. Il met la voiture en route. Le trajet se fait sans grande difficulté. Les routes sont pleines de colonnes de réfugiés. Mais il y a tout de même de la place pour circuler. Derrière la colline qui coupe la ville en deux, le quartier résidentiel n'a presque pas été touché. Les bombardements cherchent surtout à voir les points stratégiques de la ville. La gare, la radio, la mairie, les usines, la poste, le téléphone, etc. Et comme ils n'arrivent pas à viser juste, cela fait beaucoup de décombres et de morts. Mais le quartier résidentiel n'est pas un quartier stratégique et est coupé de la ville par la colline, ce qui le protège pour le moment. La voiture s'arrête devant une maison basse, toute blanche, de style moderne. Ils sortent de voiture. On entend au loin le bruit des bombardements et le ciel est rouge avec de la fumée. Le quartier semble désert, les maisons vides, une ville morte, mais tout est propre. C'est la maison des parents de Denis. Ils sont partis en Irlande et m'ont laissé les clés. N'aie pas de gros scrupules. Il t'aimait bien et t'aurait prêté la maison. Elle va au coffre, sort une valise qu'elle met à terre. Il la prend et dit
« Le quartier est vide. »
Oui, les gens ont préféré partir en Suède, Allemagne, Suisse. Mais l'électricité marche et le téléphone aussi. Enfin, pour l'instant, elle soupire. voici les clés. Elle les lui donne. Je dois te quitter chez ma famille.
Merci.
Elle lui tend la main et lui dit « À des jours meilleurs !» Puis elle entre dans la voiture et part. Une fois qu'elle est partie, il entre dans la maison. Éclair, grand hall d'entrée tout blanc, pose sa valise. Et visite. À droite, cuisine avec meubles blancs modernes. À gauche, séjour immense coupé en deux par la salle à manger. De grandes baies vitrées, meubles modernes noirs et blancs. Fond du couloir, deux chambres et la salle de bain. Tout est moderne, propre, lisse. Le bruit assourdissant des bombardements, le ciel rouge, enfumé, que l'on voit des fenêtres, baies vitrées, rend le décor irréel. Il prend sa valise et a décidé de prendre la plus petite chambre, meublée en meubles 16 blanc. Il va poser sa valise sur le lit. Ouvre et commence à ranger ses affaires dans une armoire. C'est stupide, mais l'habitude. Lorsqu'on est en voyage, l'on défait sa valise à l'hôtel. Lui en fait autant. De toute façon, il est comme les voyageurs. Il s'installe dans l'éphémère. Elle a bien fait les choses, elle a rempli la valise de linge, de disques, de livres, de tout ce qu'il aime. Il va ouvrir l'armoire. Comme elle est vide, il peut ranger son linge dedans. La sonnerie de téléphone vient de ressentir. Ça le fait sursauter. Doit-il ou ne doit-il pas répondre? Il décide d'aller répondre et du téléphone peut-être. Il sort de la chambre et va dans le séjour où se trouve le téléphone. Il se trouve sur une table blanche. Décroche, ne dit rien et reconnaît la voix.
Oh, c'est toi. Comment as-tu un numéro? Ne le donne à personne. Non, ça va. Oui, j'ai ce qu'il faut. Elle a tout prévu. Non. Ne viens pas, surtout. Ce que je vais faire, rien. Attendre que l'on vienne me chercher. Je vais tâcher d'écrire. Moi aussi je t'aime. Moi aussi je t'aime, Florence. Au revoir.
Et il retourne dans la chambre. il est assis à une table du bureau qui se trouve dans un coin du séjour. Feuille de papier devant lui, un stylo plume à la main. Essaye d'écrire. Dehors, toujours les bombardements que l'on entend. Il n'y arrive pas. Soupire. Pose son crayon.
Je suis vidé. J'ai plus rien à écrire. J'ai l'impression que c'est la fin pour moi. C'est plus dur que le néant de la mort. Et pourtant, je tiens à laisser quelque chose à la prospérité.
Prends son stylo et essaye. Mais n'y arrive pas. Pose le stylo et soupire. Se lève et fait les 100 pas.
Il faut que je trouve quelque chose. C'est ma dernière œuvre. Après, ce sera fini. Je dois me détendre un peu. Oui, je dois me détendre un peu.
Il s'assoit sur une chaise, soupire.
Et puis, à quoi bon? À quoi bon? C'est le chaos, la fin de tout. Me justifier, leur dire que je ne suis pas de leur monde, que je refuse leur jugement. Jugement de Métèque. De Métèque.
Il est à la cuisine. Il va pour ouvrir le buffet pour chercher quelque chose à manger. Quelque chose à manger de rapide. Il cherche, puis trouve une boîte de métal de gâteau sec. L'ouvre. Il mange debout, ce sont des petits gâteaux secs. Puis, après avoir mangé quelques gâteaux, il ferme la boîte. Et va poser la boîte sur la table. Puis va à l'évier boire de l'eau du robinet. Il prend un verre et ouvre le robinet. Il sort de la cuisine pour aller dans sa chambre. Se coucher, tire les rideaux pour ne pas être gêné par la lumière, se déshabille et se couche. Il n'arrive pas à dormir parce que c'est la fin d'une époque, que tout ce qu'il aime est en train de disparaître pour laisser la place à un ordre nouveau. Le monde civilisé est mort.
Nous avons perdu la guerre contre la barbarie.
se réveille. Le bruit de la guerre est toujours là. Il se lève et va à la fenêtre. Et dit:
et si l'on clame la destruction d'un monde, nous sommes déjà morts et l'on attend les bras ouverts des vaincus. Pourquoi toute cette tuerie? Pourquoi?
Il est assis au séjour devant sa chaîne IFI et écoute du Mozart. Il écoute religieusement la musique et il dit:
comment peut-on mettre à égalité cette musique et le mot, la musique tam-tam primaire? Ce n'est pas de la même essence. C'est tout de même autre chose, Mozart. Le monde occidental a dépassé la musique primaire. Alors pourquoi vouloir retourner en arrière? Par idéologie égalitaire? Mais dire que la musique zoulou est égale à celle de Mozart, c'est dégrader Mozart. Il y a des cultures, oui, mais elles ne sont pas toutes au même niveau et ne peuvent se comparer. L'art doit aller de l'avant tout en gardant un œil au passé. Mais le passé ne doit pas nous ramener en arrière.
Il se lève pour aller ranger son disque. Il est assis à la cuisine et mange des gâteaux secs de la boîte. Il a des provisions de conserve, mais il n'a pas envie de se faire un vrai repas. Il est assis au bureau et essaye d'écrire. N'y arrive pas.
Je n'y arrive pas. Mon cerveau est malade. Il y a trop de bruit, de fureur. C'est la fin du monde occidental.
Et il écrit: heureux la fin pour moi. Et dit:
on nous a tout pris. même notre homme.
Il est à la fenêtre et regarde le ciel.
Je ne suis plus qu'un spectateur. Jusqu'à ce que l'on vienne me chercher dans mon dernier acte. Attendons. Abandonnons l'écriture. De toute façon, c'est fini. Je suis un souci. Oui. En sursis.
Il soupire. Il va s'asseoir sur une chaise. Va à la bibliothèque qui se trouve derrière le bureau. Regarde quelques titres de livres. En sort. Après les avoir feuilletés, il les a remis en place. Il en a gardé un qui l'ouvre.
Si j'avais autant de talent que certains d'entre vous, le bal du comte d'Orgel. Voilà un livre admirable. Pas une phrase, un mot de trop. Mais quelle légèreté de langage.
Il repose le livre, soupire et dit.
Qui vont vous lire maintenant? Vous allez être oubliés. La lecture n'intéressera plus personne. Le bruit, les images qui défilent vont vous remplacer. Et puis, le langage changera, il sera simplifié et personne ne saura lire ses œuvres.
Il referme la bibliothèque.
Thank you.
Il est dans sa salle de bain, devant le lavabo, qui a une grande glace au-dessus. Il se regarde bien et dit
« Tu es vieux, mais tu feras un mort très convenable. Très convenable à voir. Je me laverai, me parfumerai et me mettrai des vêtements propres. Pas pour imitation ou dignité, mais simplement pour remercier mon corps de m'avoir permis de passer dans ce monde de façon la plus digne possible. »
Soupire, se déshabille et fait couler l'eau dans la baignoire. Un autre jour, il y a toujours le bruit de la guerre, mais rien ne bouge dans le quartier et la maison. En regardant à la fenêtre, il dit
« Ils sont tous partis pour ne pas avoir à subir l'épuration. Ils reviendront dans 2 ans avec un magot encore plus gros. Ce sont des gens comme moi que l'on va juger pour ce qu'ils ont fait. » Nous avons décidé de rester et d'accepter dignement notre destinée comme des hommes qui assument ce qu'ils ont fait.
On le voit dans le séjour, marcher en pensant. Il a mis un disque et est assis. En écoutant, il dit
« Mes ennemis vont prendre le pouvoir. Ils voudront me juger et m'exécuter. On m'en veut parce que j'ai écrit des livres pendant la guerre. Qu'aurais-je pu faire d'autre ? Ne rien écrire, c'était cacher mes idées, mourir de faim. Faire de la résistance, je suis contre la peine de mort. Tuer mon prochain me répugne, même si c'est un ennemi. Je n'ai écrit que des livres pacifistes qui ne traitaient que d'art, de paix, de l'amour de mon pays. »
Il soupire.
Jamais parler de la guerre. Mais des imbéciles ont trouvé dans mon œuvre, surtout dans mes pièces de théâtre, des thèmes préoccupants. Je suis pour rien si les occupants avaient les mêmes idées que moi. Sur certains sujets. Je ne l'ai pas fait exprès. »
La musique et le bruit se mélangent. « Il est assis au bureau et regarde des livres d'art. Reproduction de photos en noir et blanc, de rues, d'arbres, visages. Reproduction de tableaux aussi.
Admirable. Sublime. Sublime. Une image, c'était quelque chose qui se voulait unique. On prenait du temps pour la créer. On faisait de la recherche.
Il referme le livre pour le remettre dans la bibliothèque. Il est dans son lit et réfléchit. Puis il dit
« Les gauchistes suppriment les opposants pour l'égalité, imposent à la France la culture multirace comme chez les Yankees d'Américains. »
Il soupire.
« C'est le retour des métèques à l'argent facile, à l'art nègre sans âme, sans rien, juste à consommer de suite. Pour les ploucs, le plus grand nombre, la masse. Moi, je suis contre. Je suis pour garder nos valeurs et pour la vraie culture, pas pour la quincaillerie.
Il s'allonge et éteint la lumière. Il est assis à son bureau et lit. Le téléphone a sonné. Il se lève. Prend le téléphone. Silence.
Bonjour, Florence. Oui, ça va et toi? Non, je n'écris pas. Je me sens vidé. On ne te fait pas de soucis, c'est sans nul doute le bruit des bombardements. Et les nouvelles? Ça ne m'étonne pas. Les gens sont médiocres dans l'ensemble. Alors ils choisissent comme eux. Ça va? Je lis un peu. J'ai quelques provisions. Tu me manques aussi. Surtout ne viens pas. À quoi bon? Je t'embrasse. À bientôt.
Il repose au téléphone et retourne à son bureau. Il regarde un Christ au mur, le prend et dit
« Après avoir lu les évangiles, on ne peut pas supporter le commentaire qu'en font les religieux. C'est tellement beau, fort, sublime, que tout commentaire ou analyse ne servirait qu'à y abaisser. Je mourrais sans doute, sans dernier sacrement ni messe, mais je mourrais d'une façon digne. »
Il remet le Christ en place. Thank you. va prendre sa valise qui est à terre à côté de l'armoire pour pouvoir y prendre un cahier.
Mes écrits. Et il y a haute voix. L'art, c'est créer pour s'exprimer. C'est crier avec son âme. On ne peut s'exprimer en cherchant à représenter la beauté, le beau. L'art peut représenter des idées. Il peut enseigner la vie, le monde, l'homme. L'art peut se trouver de partout et tout exprimer. L'art se sert de plusieurs sources pour s'exprimer. La peinture, la lecture, la sculpture, la musique, etc. Toutes ces choses sont toutes égales les unes aux autres. Aucune n'est plus forte que l'autre. L'artiste et le public choisissent souvent ses goûts. L'art est reçu par nos sens, notre corps, notre âme. L'artiste, par l'intermédiaire de son œuvre, cherche à apporter des sensations, à émouvoir. Une œuvre d'art qui laisse indifférent le public est une œuvre ratée. Il faut que notre corps et notre cœur puissent réagir à ce qu'ils voient, entendent, nous touchent. Si l'on a envie de rire, pleurer, chanter, c'est que l'artiste a réussi. Une œuvre d'art peut être basée, faite sur une chose utile de la vie quotidienne, tel un couteau, ou la vie quotidienne d'un village. Même si le sujet est très simple, cette simplicité sera rehaussée par la façon dont le sujet sera traité. Un sujet simple, traité d'une façon simple, sans artifice, peut devenir une grande œuvre d'art. Une œuvre d'art est réussie lorsque l'on ne sent pas la technique de l'artiste. Et pour ne pas sentir la technique, il faut s'exprimer d'une façon simple et claire. Le sujet peut être aussi basé sur quelque chose de très grand, de très fort, comme par exemple cathédrale, recherche de l'absolu. L'on peut traiter ces sujets soit d'une façon très simple, très pure, car l'on pense que le sujet est suffisamment fort et qu'il n'a pas besoin d'être rehaussé par des artifices artistiques. L'on peut aussi les traiter d'une façon grandiose, symbolique, car l'on pense que l'expression ne doit pas être en dessous du sujet. Mon avis personnel, c'est qu'il vaut mieux traiter un sujet puissant, fort, d'une façon simple. Ça permet au public, au lecteur, d'être directement dans le sujet, sans l'intermédiaire de l'artiste. Car l'artiste doit s'effacer devant son œuvre. L'on ne doit pas reconnaître l'artiste dans ce qu'il fait. Si l'on reconnaît l'artiste dans son œuvre, c'est qu'il a manqué d'imagination. Bien sûr, il y a des exceptions, mais il faut que l'artiste soit une grande personnalité. Tout le monde ne peut être artiste, car il faut savoir voir. Les gens voient sans réfléchir. Ils n'approfondissent pas ce qu'ils voient, mais l'art leur fait voir ce qu'ils n'auraient pu voir. L'art les guide dans le monde. La plupart de nos grandes œuvres d'art ont été créées après que l'artiste ait eu une grande douleur de l'âme. Cette douleur lui a permis de mieux comprendre, de mieux ressentir son âme. Car plus l'on connaît son âme, et plus l'âme participe à ce que l'on fait. Et en connaissant mieux son âme, on a appris en même temps à mieux connaître celle des autres. Attention, notre époque tue l'art en en faisant un produit de consommation. Est-ce de l'art ce que l'on nous propose ? Non, car l'on forme le goût du public par la mode, la consommation. Il est de plus en plus rare de trouver à notre époque des gens qui ont un goût personnel. Et comment voulez-vous que les gens aient un goût personnel vu ce que l'on propose ? On va même jusqu'à dire au public que les artistes de bazar sont des œuvres d'art. Notre époque n'a pas créé de nouveaux styles, mais elle s'est contentée d'imiter et de mal imiter les autres styles. Bien sûr, il y a des exceptions, mais elles sont rares. Pourquoi ne créons-nous plus ? C'est parce que la création, comme ils disent, est entre les mains des hommes d'affaires, des petits bourgeois. Avant, était entre les mains des artistes, des mécènes, des gens qui n'étaient pas amoureux de l'argent, mais qui aimaient l'art et la création. Une œuvre d'art ne peut être conçue pour les masses, mais pour une personne. Elle doit être l'expression d'une personne. Faire une œuvre pour les masses, pour tous, c'est faire une œuvre, ou plutôt une chose à l'emporte-pièce. L'œuvre d'art ne peut être qu'unique. Elle ne doit pas chercher à plaire et même à avoir un public. C'est le public qui va à l'œuvre d'art. Ce n'est pas l'œuvre qui va à lui. Plus le public fait des efforts pour accéder à l'œuvre, plus l'œuvre est forte. Elle doit surprendre et éveiller l'esprit. Le public doit toujours être en éveil. Chercher à faire une œuvre d'art, c'est chercher à faire exprimer son âme. L'art est une chose indispensable à l'homme, car il lui permet de connaître ses semblables et le monde qui l'entoure par l'intermédiaire de l'œuvre. Il apprendra à voir et à entendre ce qui l'entoure. L'art est voir avec son âme. L'art est être guidé par son âme. L'art cherche à rehausser l'homme en lui, en affinant ses goûts, en le rendant sensible au beau des choses et de l'âme. Il a fini de lire, referme son cahier. Il est au bureau et regarde un livre où se trouvent des photographies, des sculptures. Il est à son bureau et écrit en parlant.
Je suis pour la liberté, mais contre celle des barbares. Avant de donner la liberté à un peuple, il faut l'éduquer et lui apprendre à reconnaître les vraies valeurs et à s'auto-censurer ou dominer ses instincts. Pour qu'il ne gêne personne.
Il est debout devant la fenêtre, regarde dehors et dit
« Un gouvernement qui abaisse l'art pour le plus grand nombre abaisse aussi son peuple. L'art doit être employé pour rehausser les hommes et pour cela il doit être au plus haut niveau, c'est-à-dire au niveau de l'immortalité. »
Le téléphone a sonné. Il prend l'appareil.
Non, je n'écoute pas. J'ai pas de nouvelles. À quoi bon ? Je suis d'avance. Et puis, je dirais que cela ne m'intéresse plus. Et toi ? Personne ne te... Bien. Ne cherche pas à demander quoi que ce soit à ces gens-là. Fais-le au nom de notre amour. Moi aussi je t'aime. Si t'arrive quelque chose, tu sais. Oui,
S'il m'arrive quelque chose à moi aussi, tu sais que tu dois ramasser mes œuvres. Oui, faudra que tu les prennes. Non, ne sois pas triste, c'est la vie. Oui, à bientôt. Il est assis devant sa chaîne et écoute de la musique et dit « C'est la musique qui s'approche de Proust, de l'absolu. Que je sois en la créant, la jouant ou l'écoutant. En sorte que l'âme se rehausse et vous mène au-delà du monde des mortels pour aller vers celui des dieux. Téléphone à Soleil, il a pris l'appareil. Non. Bien. Ils viennent me chercher demain matin. Ne pleure pas, Florence. Nous le savions. Je t'en prie, fais-le pour mon amour. Non. Ne viens pas. Tu m'as juré. Tu dois vivre pour préserver mon œuvre. Non. Moi aussi, je t'aime. Non. Je ne laisserai pas me juger. Ne pleure pas. Non. N'aie pas peur. Je penserai à toi. Soyons dignes, toi et moi. Nous avons chacun notre devoir à accomplir. Le tien est le plus ingrat. Je t'aime. Non. Ce sera pas douloureux. Pour toi, ce sera plus dur. Tu auras à les affronter. Adieu. Je t'aime.
Et il pose le téléphone. Il est dans la salle de bain, se déshabille, se lave, se parfume. Dans sa chambre, debout, lit un cahier, il est en habit de soirée.
La noblesse, c'est rechercher la perfection dans tout ce que l'on fait. La personne qui se veut noble se doit d'avoir une très haute idée de ce qu'elle est. Cela lui permet de rechercher la perfection, car seule la perfection est digne de cette personne. Cette recherche se fait que pour soi et pour les autres. La noblesse, c'est un sens de l'honneur, de la dignité, du devoir. La noblesse ne s'acquiert que par l'éducation. Elle est un don des dieux. L'esprit de noblesse se trouve dans tous les milieux. Ni la fortune, ni les idées politiques ou religieuses n'entrent en compte. Sauf si ces idées sont contraires à l'honneur. Cette noblesse, c'est se respecter soi-même et tout ce qui nous entoure. C'est rehausser ce que l'on entreprend par la perfection. C'est faire avec respect, c'est-à-dire avec perfection, tout ce que l'on entretient. Mais c'est savoir se sacrifier pour l'autre ou une idée. Il ferme son cahier. Il est à la cuisine, se sert un verre d'eau. Il boit avec des comprimés,
puis va dans sa chambre s'allonger sur le lit. Une heure plus tard, on sonne à sa porte. Défonce la porte. Des pas, des cris. Arrivé dans la chambre, des hommes en uniforme et en civil, ils voient le corps sur le lit. Radio Canu vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Crépuscule, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP.
Canu.
La radio utile.